La carte Visa Orange Money, retrait et paiement dans toute la zone UMOA, en partenariat avec la Banque Atlantique, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
François Mazet.
Bonjour, bienvenue à tous dans Appel sur l'actualité, c'est votre émission. Chaque matin, RFI se mobilise pour répondre à vos questions, parce que savoir c'est bien, mais comprendre c'est mieux. Dans 20 minutes, c'est la libre antenne, c'est vous qui décidez des sujets à aborder. Si vous voulez approfondir, ajouter quelque chose, revenir sur une discussion de la semaine, ou bien sur un autre sujet, c'est possible. Nous vous attendons par téléphone, 33 9 693 693 70. Sur la page Facebook de l'émission, vous pouvez aussi nous envoyer vos messages par WhatsApp au 33 6 89 28 53 64. Avant cela, vos questions d'actualité. Donc, on commence à Bamako avec Saliou. Bonjour.
Bonjour François. Bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Saliou, vous avez des questions sur les débats de la semaine dans le cadre de la primaire du Parti démocrate pour la présidentielle américaine de l'an prochain. Allez-y.
Effectivement. Les candidats à la primaire démocrate aux États-Unis se sont affrontés lors d'un débat pour la présidentielle de 2020. Sanders et Warren ont particulièrement été critiqués par leurs adversaires, car jugés trop radicaux. Qu'est-ce que les autres démocrates leur reprochent?
Alors, l'un des deux. Allez-y, finissez, Saliou.
L'un des deux pourrait-il être en mesure de battre Joe Biden, le grand favori de cette primaire?
Eh bien, on va le demander à Eric DeSalve qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez suivi ces débats pour nous cette semaine. Bernie Sanders, Elizabeth Warren ciblés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop à gauche ou trop haut dans les sondages?
Alors c'est vrai qu'on a vu une coalition de petits candidats se former. Alors quand on dit petits candidats, c'est-à-dire la myriade de candidats qui sont en dessous des 1% dans les sondages et qui représentent donc la majorité de ces 24 candidats. On a vu lors du premier débat une coalition se former contre les deux favoris du premier débat, à savoir Elizabeth Warren et Bernie Sanders, qui représentent effectivement cette aile gauche, très à gauche, du Parti démocrate et qui sont accusés, c'est le principal reproche qui leur est fait par ces petits candidats plus modérés, d'être trop à gauche, trop radicaux, avec des promesses qui, on a entendu des expressions, des accusations fusées comme contes de fées, ils sont accusés de proposer des contes de fées, des promesses irréalistes et surtout de mener le parti vers une défaite certaine, parce qu'ils considèrent que une élection aux États-Unis ne peut se gagner
au centre. Là, les sujets principaux, c'est les frais de santé gratuits, l'université gratuite, l'absence de l'argent privé, des lobbies dans les campagnes, etc.
Alors effectivement, le principal point d'achoppement, ça a été la question de l'assurance santé. Elizabeth Warren et Bernie Sanders proposent quelque chose d'assez révolutionnaire pour les États-Unis, c'est-à-dire d'en finir avec les assurances privées sur lesquelles repose tout le système de protection médicale aujourd'hui aux États-Unis, et de construire un petit peu comme en France, une sécurité sociale uniquement publique. Ça, c'est quelque chose de totalement irréaliste pour le camp centriste du Parti démocrate, qui propose une sorte d'entre-deux avec moins de privé et un peu plus de public, mais certainement pas d'en finir avec les assurances privées et les grands groupes pharmaceutiques comme le propose Bernie Sanders.
Alors ces candidats centristes, ils accusent donc, comme vous l'avez dit, Warren et Sanders d'effaroucher les électeurs centristes, en particulier dans les états clés. Et s'il y a une personne qui rassure peut-être ses électeurs, c'est Joe Biden. Joe Biden, c'est le centriste absolu, l'ancien vice-président de Barack Obama. Il a de l'avance dans les sondages, mais est-ce que les autres candidats peuvent le dépasser?
Oui, alors, ce qu'on leur reproche également à Bernie Sanders et Elizabeth Warren, c'est de faire le jeu de Donald Trump, parce que Donald Trump cherche à faire de ces deux candidats très à gauche un épouvantail, en utilisant le mot socialiste, que Bernie Sanders est le seul à revendiquer aux États-Unis, puisque c'est un mot tabou, c'est un mot qui fait peur, c'est pas comme chez nous, là-bas, c'est vraiment, c'est presque comme si c'est une accusation de soviétisme, quasiment.
C'est Donald un affrontement Trump, de radicalité, finalement.
Absolument, absolument. Et Donald Trump cherche à créer une représentation qui ferait du Parti démocrate uniquement un groupe de radicaux comme ça, communistes, et pour faire peur à son électorat, pour créer un épouvantail. Et donc il répète constamment, les États-Unis ne seront jamais un pays socialiste. C'est aussi pour ça qu'on le reproche de faire le jeu de Donald Trump. Joe Biden, effectivement, apparaît comme l'un des candidats les plus consensuels. Il est le grand favori dans l'élection pour cette primaire démocrate depuis le tout début. Et ça laisse penser, effectivement, que les électeurs ont plutôt tendance à penser qu'effectivement, c'est quelqu'un qui peut battre Donald Trump parce qu'il est au centre, parce qu'il peut aller capter les voix, les swing votes, c'est-à-dire les voix qui sont un peu indécises entre les deux.
Dans les États où tout se jouera. Alors, Joe Biden, il a 76 ans. Bernie Sanders, 78. Elizabeth Warren, 70. Donald Trump, lui, il en a 73.
Il fait presque figure de jeune homme.
Ouais, pourquoi les septuagénaires dominent, écrasent la primaire démocrate et l'élection qui vient?
C'est effectivement une élection où, pour l'instant, tout se joue entre quatre septuagénaires. Effectivement, ça illustre d'abord le fait que le Parti démocrate a été incapable de faire émerger une personnalité de consensus, capable de créer un vrai leadership derrière elle. Pourtant, la nouvelle génération, elle existe, elle est représentée par ces élus qui ont gagné, qui sont arrivés à la Chambre des représentants, élus démocrates lors des dernières primaires de 2018, des gens comme Alexandra Ocasio-Cortez, et aussi qui est en train de renouveler le paysage politique démocrate très à gauche, très jeune, elle a moins de 30 ans, et elle est c'est un poulain, si j'ose dire, de Bernie Sanders, puisqu'elle a été créée elle a émergé dans le sillage de Bernie Sanders, et cette frange là du Parti démocrate, qui elle aussi est sur une ligne qui est considérée comme radicale aux États-Unis, elle n'est pas représentée effectivement pour le moment dans les candidats de la primaire. Il y a quand même à noter un candidat qui est très jeune, qui s'appelle Pete Buttigieg, qui a 37 ans, qui a la particularité d'être le premier candidat ouvertement homosexuel à la présidentielle américaine, et qui fait une très forte impression aussi, et qui pourrait se retrouver sur un ticket en tant que peut-être vice-président.
Voilà, pour l'instant, succès d'estime, mais pas encore succès électoral.
Exactement.
Merci Eric de Salve d'avoir été avec nous. Avec la Marana, nous sommes à Coya, bonjour.
Bonjour monsieur.
C'est à la sortie de Conakry en Guinée.
Oui.
Vous aviez une question sur la tournée africaine du président indien.
Oui. Bonjour monsieur François Mazet et aux auditeurs de RFI. Depuis quelques jours, le président indien est en visite en Afrique de l'Ouest. Alors, ma question est de savoir pourquoi l'Inde chercherait-elle à s'implanter particulièrement en Afrique de l'Ouest? Merci.
Alors, la Marana, effectivement, Ramnath Kovind, j'essaye de bien prononcer son nom, le président de l'Inde, passe une semaine au Bénin, en Gambie et en Guinée, où il est arrivé hier dans votre pays. C'est une première. Même si on rappelle qu'avant tout, le président indien a des fonctions protocolaires, c'est un signe. Hein. Bonjour Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Inde et des pays émergents à l'IRIS. Alors pourquoi cet intérêt de New Delhi pour les pays francophones ouest-africains?
Ah non, pas francophones, la Gambie.
Il y a aussi la Gambie, bien sûr.
Ben non, mais c'est très important. La Gambie a été, de 1821 à 1965, une colonie de l'Empire britannique. À ce titre, comme tous les pays est-africains et l'Afrique du Sud, une véritable diaspora s'est installée. Et comme la Gambie, ben c'est petit, en fait, à partir de la Gambie, elle a sillonné toute la région. Je rappelle que l'Inde, c'est plus de 3 millions de personnes en Afrique, sa diaspora, présente dans une cinquantaine de pays, et notamment, à chaque fois, le président indien, dont c'est souvent la fonction de rencontrer la diaspora dans le monde entier, a rencontré à chaque fois, lors d'une manifestation importante, la diaspora indienne, à la fois au Bénin, Guinée et Gambie.
Alors vous l'avez évoqué, hein, l'Inde a beaucoup de partenaires habituels dans les pays anglophones, mais elle essaye d'élargir ses horizons et ses marchés et ses moyens d'approvisionnement peut-être en ressources.
Alors, oui, on observe, c'est toujours très discret, on a très peu d'informations en réalité sur les activités indiennes, un peu à la différence de la Chine. Sa diaspora elle-même est extrêmement entreprenante. D'ailleurs, le président Kovind a à chaque fois utilisé la même phrase en disant « vous êtes les véritables ambassadeurs culturels ». Et du business. Donc il y a d'ores et déjà beaucoup d'entreprises indiennes présentes, petites entreprises ou moyennes, mais il y a surtout des grands groupes indiens. qui eux sont effectivement publics ou privés, mais surtout privés dans le cas de l'Inde, de véritables bras armés de la sécurisation des approvisionnements de matières premières. Peu de gens savent que Mittal, par exemple, est évidemment présent un peu partout sur le continent, mais aussi l'Inde est le premier consommateur d'or dans le monde, il n'en produit pas, quasiment pas, donc c'est en Afrique aujourd'hui que la chasse vers l'or est en train de se développer, et donc c'est bien sûr cet aspect-là, mais c'est aussi la sécurisation des marchés, et de ce point de vue-là, qu'il n'y a pas de différence entre l'Afrique de l'Est ou l'Afrique de l'Ouest, partout où les produits se vendent, eh bien, les produits indiens, pardon, se vendent, les autorités les suivent, c'est notamment les triporteurs, les petits triporteurs de Bajaj, où on les voit un peu partout en Inde, parce que la technologie indienne est frugale, assez simple. Parfois, ça coûte cher, les produits indiens, mais ils sont extrêmement rentables. Et donc, c'est aussi pour accompagner le développement de ces grands groupes. Les pompes, par exemple, d'irrigation. Kirloskar est le numéro 1, c'est très peu connu. Des pompes d'irrigation
Pour les Africains, pour ces nouveaux marchés comme le Bénin ou la Guinée, est-ce que ce New Deal avec New Delhi, c'est une bonne opportunité?
Alors c'est très important de comprendre effectivement que finalement l'Inde n'a pas une meilleure image que la Chine. Il ne faut pas du tout croire que d'un côté il y aurait le dragon détesté et de l'autre côté une sorte de déesse Durga aimée. On n'aime pas en général ni les Chinois ni les Indiens parce qu'ils vivent complètement repliés sur eux-mêmes, ce sont des communautés, des diasporas très fermées qui se marient entre eux, etc. Mais le rôle de l'Inde a été nettement apprécié lorsque la Chine est apparue beaucoup trop puissante, c'est un véritable rouleau compresseur, donnant assez peu de marge de manœuvre aux Africains dans les négociations. Donc là, l'Inde est un pays qui est finalement plus petit, c'est un peu le David et Goliath par rapport à la Chine, donc il redonne aux pays africains la main dans les pouvoirs de négociation. Deuxièmement, il est clair que ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a une complémentarité entre la Chine et l'Inde. Les produits indiens jouent rarement sur le même registre que les produits chinois, mais ce sont des produits donc beaucoup plus simples, plus frugaux, plus adaptés en réalité. Un bon exemple lors de cette visite du président Kovind, et il ne faut pas sous-estimer le rôle du président, hein, il a une fonction peut-être secondaire en interne, mais il a une fonction décisive puisque en cas de destitution du Premier ministre, c'est lui qui va agir. Mais à chaque fois, il a signé des mémorandums of understanding pour de la formation en télémédecine. Notamment, ils vont former 15 000 étudiants au Bénin. Or, la télémédecine est quelque chose sur lequel les Chinois ne sont pas du tout. Et tout le monde considère que c'est vraiment la clé de l'avenir de la médecine en Afrique. Continent immense, bien sûr, et surtout un déséquilibre très fort entre la population à soigner, qui s'accroît rapidement, et la formation des médecins, infirmiers, etc. Et donc la télémédecine est un vecteur de pénétration également sur le solaire.
Donc si je vous comprends bien, Jean-Joseph Boileau, il n'y a pas vraiment de concurrence entre l'Inde et la Chine. Hein. Ce sont des offres qui sont parallèles, on peut dire.
Oui, complémentaire. Par contre, pour les Africains, c'est évidemment mieux d'avoir la diversité du choix, y compris sur le plan géopolitique. L'Inde veut rentrer au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine le bloque, c'est bien connu, la Chine ne voudrait pas qu'elle rentre. Donc à chaque fois, d'ailleurs dans la visite du président en Afrique de l'Ouest, c'est pour ça que l'Inde s'intéresse aussi à l'Afrique de l'Ouest, on a signé dans la déclaration le soutien de ces trois pays d'Afrique de l'Ouest à la candidature de l'Inde au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Merci Jean-Joseph Boileau d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Inde et des pays émergents à l'IRIS, donc le président indien qui est depuis hier en Guinée. C'est une première visite en Guinée-Conakry et on parlait des ressources naturelles. Il sera notamment bien sûr question d'approvisionnement en bauxite. On reste toujours en Guinée, à Conakry. Se trouve Ibrahim, bonjour.
Bonjour François, bonjour David, votre technicien du jour.
Vous avez des questions suite à l'arrestation de deux ressortissants russes en Libye?
Tout à fait, oui. Des citoyens russes ont été arrêtés en Libye. Quels sont les motifs annoncés par les autorités libyennes pour justifier leur arrestation? Ces deux personnes sont présentées comme étant des chercheurs. Que faisaient-ils en Libye?
Alors on va demander à Ouda Ibrahim du Service Afrique qui est avec nous. Bonjour Ouda.
Bonjour.
Alors Maxime Chougalef et sa mère Hassen Swaifan sont aux arrêts à Tripoli depuis le 17 mai. La presse en a eu confirmation au début du mois de juillet. Ouda, pourquoi les autorités libyennes, en tout cas celles du gouvernement d'Union Nationale de Tripoli, ont-elles arrêté ces deux hommes et les gardent depuis maintenant près de trois mois?
Alors, ces deux hommes sont accusés d'avoir cherché à semer le chaos et les troubles, de vouloir influencer les résultats des élections et attiser la guerre civile en Libye. C'est ce que dit le procureur général à Tripoli. Pour Tripoli, les ressortissants russes sont des mercenaires d'Internet chargés de façonner l'opinion publique. J'explique, ils sont présentés comme des sociologues, ils font des sondages, ils ont rencontré des personnalités politiques et des gens dans la rue pour avoir des sondages. Alors, la fondation qui s'appelle Fondation pour défendre les valeurs russes a diffusé le résultat de ces élections qui disent que le gouvernement Faiz Sarraj, donc le gouvernement d'Union nationale, a seulement entre 3 et 7% de popularité dans la rue en Libye, à Tripoli et dans les autres villes, alors que Saif al-Islam al-Kadhafi et Khalifa Haftar ont tous les deux pratiquement 55% d'intention de vote.
Alors justement, Ouda, Saif al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien chef d'État libyen, eh bien ces deux personnes l'ont rencontré. C'est peut-être
c'est un fait
aussi
rare
pour cela qu'ils sont conservés dans une prison libyenne pour l'instant.
Tout à fait, parce que le gouvernement d'Union nationale n'était pas content du tout de cette rencontre. Il paraît que ces deux hommes lui ont transmis une lettre confidentielle. On sait très bien que Saif al-Islam al-Kadhafi ne cache pas ses intentions de vouloir se présenter aux prochaines présidentielles en Libye, même si les conditions ne sont pas réunies pour le moment. On sait aussi que la Russie entretient de rapports avec lui et insiste auprès des partis libyens pour qu'il intègre le processus politique en cours et qui est arrêté par cette guerre qui a lieu depuis 4 mois en Libye. Alors le gouvernement Sarraj aussi soupçonne Moscou de vouloir mettre une personnalité pro-russe à la tête de la Libye, du pouvoir libyen. On sait aujourd'hui que tous les grands pays interviennent en Libye. On sait par exemple que la France soutient Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est. On sait que la Turquie soutient le gouvernement d'Union nationale, et ainsi de suite. Donc c'est pour les intérêts, c'est pour les contrats au niveau de l'armée, le contrat économique du pétrole dans l'avenir quand le pays sera stabilisé.
La Russie essaie de reprendre la coopération, le rôle qu'elle avait en Libye avant la chute de Muammar Kadhafi.
Tout à fait, il y a des contrats, des milliards avec l'armée libyenne qui n'ont pas été honorés depuis 2011. Alors sur la deuxième question, cette affaire suscite beaucoup d'interrogations parce que l'homme qui est à la tête de cette fondation, Alexandre Malkevitch, eh ben, il était impliqué dans une histoire un peu pareille aux États-Unis en 2016. Vous savez, on a beaucoup parlé à cette époque que des sondages ont été truqués, ont été publiés pour
L'intervention dans le processus électoral, l'ingérence russe.
Exactement. Selon des médias américains, Alexandre Malkevitch entretiendrait des relations étroites avec Evgeny Prigogine. C'est un homme d'affaires russe, proche du président russe, Poutine, et on dit, on l'appelle le cuisinier du président. Cet homme d'affaires est l'initiateur de l'organisation Project Lacta, qui possède un site de recherche sur Internet, soupçonné donc de vouloir influencer les résultats des élections aux États-Unis en 2016. Son nom figure aussi sur une liste de sanctions américaines qui comprend 19 personnalités russes frappées de sanctions.
Voilà, donc ces deux personnalités sont ciblées, accusées peut-être d'être en lien avec ce qu'on appelle la zone grise, toutes ces organisations qui sont autour du Kremlin et qui peuvent essayer d'interférer sur des situations électorales, on l'a dit aux États-Unis. Et peut-être demain en Libye, Ouda, on rappelle rapidement, les élections devaient avoir lieu d'ici à la fin de l'année, elles sont reportées.
Et on n'a pas une date.
Voilà. Merci beaucoup Ouda Ibrahim d'avoir été avec nous et merci à Ibrahim de votre fidélité. Vous étiez à Conakry en Guinée. Tout de suite le journal sur la Radio du Monde.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.